Ce n'est pas nouveau, la vérité dérange. Alors pour l'étouffer, certains s'emploient à faire régner la loi du silence. L'omerta s'applique dans tous les milieux, politiques, mafieux, sportifs, religieux ou familial. Parfois, pourtant, des femmes et des hommes prennent la parole, bravent l'interdit pour briser le silence et dire leur vérité. Quelle pression physique ou morale subissent-ils? Comment s'exercent les représailles contre celui qui parle? Et dire la vérité a-t-il vraiment fait avancer leur combat? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Joël. La vie de ce croyant a basculé le jour où il a voulu dénoncer publiquement son agresseur. Je suis Olivier Delacroix, bienvenue dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ».
Cet homme a affronté l'Église catholique, l'une des institutions les plus fermées lorsqu'il est question de scandale en son sein. Entre l'âge de 14 ans et 17 ans, Joël a été violé par un prêtre, l'adjoint du curé de la paroisse. Incapable de parler de ce tabou qu'est la pédophilie chez les prêtres, l'Église a tout fait pour étouffer l'affaire. C'était sans compter sur l'obstination de Joël à vouloir faire éclater la vérité. Je le retrouve prêtre chez lui. Il souffre d'une maladie rare des yeux. Aujourd'hui, il est presque aveugle. Il vit seul avec sa chienne Dora, qui ne le quitte pas d'un pas.
C'est chez vous, là, en fait?
Je crois.
Allez.
Oui, parce que moi, je vois pas. C'est le numéro 30. Mais moi, je vois pas bien.
Oui.
Et ma clé, elle est où? C'est une clé ronde.
C'est une clé ronde? C'est celle-là. Vous avez réussi à vous habituer quand même rapidement à...
Ouais, normalement, il y a la Ligue Braille qui vient aider. Ils viennent aider, mais ça fait 2 mois que je les attends.
Allez-y, je vous suis.
Viens, Dora.
Allez, Dora.
Joël vit désormais ici à Bruxelles. Après ses aveux, il y a 12 ans, il a dû quitter son village natal car il était devenu là-bas indésirable, accusé d'avoir sali et trahi l'Église. Issu d'une famille nombreuse, très pauvre, avec un père alcoolique au chômage et une mère au foyer, Joël trouve refuge auprès de la paroisse et un soutien précieux de la part du curé du village et de son adjoint.
J'avais les clés de l'église depuis l'âge de 9-10 ans. J'avais les clés de l'église, donc je pouvais rentrer à l'église quand je voulais. Je préparais tout, les messes, c'est moi qui sonnais les cloches, c'est moi qui comptais la collecte, c'est moi qui préparais tout. J'avais la confiance de mes prêtres de paroisse et... Je passais toutes mes journées après l'école chez eux.
D'accord.
Et puis à 9h, 10h du soir, je retournais chez mes parents dormir. Et si un jour, mon papa, il avait trop bu, et que j'avais peur qu'il revienne, parce qu'il avait trop bu, qu'il allait réveiller tout le monde, et que moi je dois aller à l'école le lendemain, eh bien, j'avais la clé de l'église, je retournais à l'église, et je dormais dans un drapeau belge. Parce qu'il n'y avait que ça comme couverture. Donc je dormais par terre avec le drapeau belge et je dormais avec ça.
Quel âge aviez-vous là, à l'époque?
J'ai une dizaine d'années, mais c'est une époque que j'appelle du bonheur quand même. Parce que je me sentais soutenu par l'église, par les religieuses. Les religieuses m'aidaient à faire mes devoirs. Je soupais chez elles.
Donc on peut dire que c'était votre deuxième famille. Rappelez-moi comment vous appelez
Le fils
à l'école.
Du curé.
Le fils du curé.
Et moi, j'aimais bien ça, parce que c'était une confiance. Mais je sais que ma mère n'a jamais rien fait avec le curé.
D'accord, j'allais vous poser la question, voilà, ça c'est clair. Vous n'étiez pas le fils du curé.
Non, mais j'en étais fier d'avoir cette réputation.
D'accord,
j'en étais fier.
D'accord, très bien. Tout se passait très bien, jusqu'à l'âge de 14 ans, où l'arrivée d'un nouveau prêtre va changer le cours des choses.
Oui. En 87, donc mon prêtre qui m'aimait beaucoup et qui m'aidait beaucoup, il a dû partir. Et puis, deux nouveaux sont arrivés. Il y a un vicaire qui était un jeune prêtre. Il avait 27 ans.
À cette époque, l'adolescent a pour ambition de devenir lui aussi prêtre. Mais la nouvelle donne à la paroisse va bouleverser sa vie. Le nouveau curé étant souvent absent, Joël est régulièrement confronté à son adjoint. Il ne vit pas au presbytère, mais un peu à l'écart de l'église, seul dans une maison. Avec l'innocence de ses 14 ans, Joël ne se doute de rien et rend visite régulièrement au jeune curé le soir après l'école. L'adolescent et le curé se retrouvent donc en tête à tête dans cette maison.
Il a enregistré les matchs de foot parce qu'il aimait bien le football. Et alors il me repassait le match de foot qu'il avait enregistré sur la vidéo. Et moi j'aime pas de football, donc moi je fermais les yeux. Et puis il me caressait partout. Et je disais, j'enlevais ma main. Donc je disais pas, j'enlevais la main de lui. Laisse-toi faire, j'enlevais. Et chaque fois il recommençait, laisse-toi faire, j'enlevais, laisse-toi faire, j'enlevais. Parce que si on tire sa main, ça veut dire je veux pas, même si on parle pas. Je veux pas, je veux pas. Ouais. Et lui il continue. Cette phrase, je l'ai toujours dans ma tête. Laisse-toi faire, laisse-toi faire, laisse-toi faire.
Et vous, vous réagissiez comment?
Ben, je tirais la main, je tirais la main. Moi, je ne savais pas parler, j'avais un blocage. J'avais un blocage. J'étais déjà timide de naissance.
D'accord.
J'avais un blocage.
Est-ce qu'il y a eu ensuite une évolution dans ses abus? Est-ce que ça a été plus loin?
Voilà, c'est une très bonne question. C'est très rare qu'un pédophile va abuser d'un enfant directement. Pédophilie, très rare. Ou alors il va l'abuser, le séquestrer et le tuer, je sais pas, comme Dutroux. Mais la majorité des pédophiles vont faire ça progressivement. Eh bien, le prêtre, qu'est-ce qu'il faisait? Mais à 14 ans, ça marque. Eh bien, le prêtre, moi j'étais sur ses genoux, et le prêtre, il mettait un mouchoir de voile blanc sur son nombril, en carré, puis il se masturbait. Et moi, je devais le masturber. Et lui, masturbait. Et voilà. Et puis, quand il avait joui, qu'est-ce qu'il disait? Et ça, j'ai jamais dit à personne. Qu'est-ce qu'il disait? Eh merde. Comme ça. Exprès, ça, on comprend des années plus tard. Exprès pour culpabiliser encore la victime d'à côté.
Vous n'en aviez parlé à personne?
Jamais.
À personne.
Mais si j'en avais parlé à mon père, mon père avait une carabine de chasse, il lui aurait donné une balle dans la tête.
Il l'aurait tué.
Voilà. Mais après, je n'allais pas dire à mon prêtre que j'estimais. Vous savez ce qu'il me fait? Jamais j'aurais osé dire ça.
Pourquoi?
Parce que je crois qu'on ne m'aurait pas cru. Voilà, c'est ça.
En tout cas, c'était votre crainte à l'époque.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Crainte légitime.
Crainte légitime, légitime, bien sûr, bien sûr.
Parce que je suis sûr qu'il ne m'aurait pas cru. Parce qu'à l'époque, on croit d'abord les professeurs, les prêtres et tout ça. Le prêtre aurait dit, tu mens, tu fabules, tu fais ça. Maintenant, tu redonnes la clé de l'église et on ne veut plus te voir ici.
Et vous aviez peur de ça.
Voilà.
Vous aviez peur d'être...
Voilà.
D'être,
de ne plus avoir un refuge.
Vous avez eu peur de perdre tout ça?
Oui.
En parlant?
Bien sûr, bien sûr.
Pendant 3 ans, Joël s'est entêté à retourner le voir, sachant pourtant ce qui l'attendait, espérant être enfin considéré par le vicaire comme une personne et non plus comme un objet sexuel. Un vœu pieux. L'ecclésiastique a continué d'abuser de lui comme si de rien n'était. Joël attendra ses 17 ans pour briser le silence. Il commence par alerter par écrit l'auxiliaire de l'évêque. Un courrier qui, hélas, restera sans réponse. Puis un nouvel évêque est nommé à Namur. Joël, cette fois, ose s'adresser à lui. Et là, surprise, l'évêque prend soin de lui répondre. Il s'agit en fait de réponses polies qui n'abordent jamais le fond de l'affaire. Le scandale reste tabou.
Chaque fois, les lettres commençaient par « mon fils Joël, mon fils ». Donc, c'était exprès pour me dire « je suis avec toi, mon
D'accord.
fils ».
Donc, mais que vous conseillait-il, cet évêque?
Eh bien, je vais t'aider, va voir tel prêtre, il va t'aider, va voir tel psychologue, il va t'aider. Je crois à ta vocation, et voilà.
Et moi, on va t'aider de quelle manière?
On va t'aider, point. C'est tout. J'ai des courriers qui disent « on va t'aider », point. C'est pas marqué « quelle manière ». Après, il m'envoie chez un psychologue, oui.
Pourquoi?
Parce qu'il voit que je suis renfermé sur moi-même. Normalement, un client, entre guillemets, cherche son psychologue lui-même. Moi, on me dit, va chez lui. Donc, on m'envoie chez ce psychologue-là. Et quelques années après, qu'est-ce que j'apprends? C'est que ce psychologue-là est devenu prêtre pour le diocèse de Namur. Donc, ça veut dire que l'évêque, m'envoyant chez ce psychologue-là, savait que ce psychologue allait devenir prêtre, c'était pour exprès étouffer l'affaire. Parce que si j'avais été chez un psychologue normal, il m'aurait dit, mais ce que vous dites là est grave, allez à la police, portez plainte. Et
alors,
voilà.
Tout ça, donc, pour, si je comprends bien, pour gagner du temps.
Gagner du temps et étouffer l'affaire.
Trois ans plus tard, en 94, à l'âge de 21 ans, Joël est admis au grand séminaire. 7 ans d'études pour devenir prêtre. Après encore 2 longues années de silence, Joël finit par porter plainte devant le tribunal ecclésiastique. Cette institution est chargée de régler les contentieux entre personnes au sein de l'Église. Pour la première fois, l'agresseur reconnaît les faits. Curieusement, aucune sanction n'est prise à son encontre. Au contraire, quelques mois plus tard, c'est Joël, la victime, qui est finalement exclu du séminaire.
L'abuseur est venu, mon psychologue est venu, je me demande bien pourquoi, et alors le prêtre a avoué les faits, parce que des semaines avant, on lui avait dit, voilà, si tu n'avoues pas, il va amener tous les courriers que tu lui avais écrits quand les faits se sont passés. Donc tout de suite, il a dit, j'avoue. Et alors, il a avoué les abus sur moi.
Pour quelles raisons avez-vous été exclu du grand séminaire ?
Eh bien, je m'étais lié d'affection avec un camarade. Je lui écrivais des lettres. Ils ont trouvé ces lettres-là. Et après, ils ont dit, oh, mais il a une relation ambiguë avec lui dehors. Mais l'autre, il est resté là. Donc, c'est que ce n'était pas grave puisque l'autre est resté là. Et moi, on m'a dit, ah, mais non, dehors. En une semaine, on m'a dit, dégage. Et puis l'évêque, lui, m'a dit, les larmes aux yeux, « Travaille un an ou deux, je te reprendrai après. Ceux qui t'ont mis dehors ne seront plus là, je te reprendrai. » Eh bien, j'ai cherché du travail moi-même. 2 ans après, je suis venu chez l'évêque, je dis, « Voilà, vous m'aviez dit ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Je ne t'ai jamais dit ça. » Et voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il venait en bateau et que j'ai porté plainte contre eux.
Pourquoi 2 ans, donc, à votre avis ? Pourquoi ?
Parce qu'il pensait à la prescription, c'est tout.
À entendre Joël, l'évêque a joué la montre, une fine stratégie ayant pour seul but de maintenir le silence jusqu'au délai légal de prescription. Je suis choqué par l'attitude de l'Église confrontée au cas de Joël. Avec lui, je suis allé rencontrer l'abbé Rossignon, l'un des 2 prêtres qui l'avait tant aidé lorsqu'il était encore enfant. L'abbé se souvient encore de sa réaction lorsque Joël est venu le voir avec le dossier du tribunal ecclésiastique.
Ahuri d'ouvrir la page, la première page, et de tomber sur une ordonnance de tribunal qui disait que mon successeur avait abusé de Joël. Ahuri et très en colère, intérieurement.
Bien sûr.
Très en colère. Je ne connaissais pas la problématique de la pédophilie, je ne savais pas, je ne connaissais rien du tout à tout ça, et j'ai découvert petit à petit combien Joël avait été abusé par mon successeur.
C'est monsieur l'abbé ici qui m'a appris à prier dans l'autre paroisse. Voilà.
Et puis alors j'ai découvert alors petit à petit que Joël n'était vraiment pas du tout secondé dans son désir de dire un peu
de briser
la vérité.
Le silence.
Tout, je découvre que tout était caché, que tout c'était vraiment l'omerta, c'était le silence. Rien ne pouvait sortir de cette église qui avait abîmé un de ses enfants. Et alors je dis, Joël, écoute, tu n'as qu'une chose à faire, il faut que tu écrives ton histoire. Il faut que tu l'écrives. Et alors je l'ai encouragé à écrire le livre, donc je l'ai corrigé, enfin, etc. Je voulais absolument que quelque part cette chose soit dite. Voilà.
Mais avez-vous senti autour de vous un certain scepticisme autour de ce que Joël a révélé ?
Vous savez, la question que l'on pose dans ce genre de situation, est-ce qu'il dit vrai ? Est-ce qu'il ne joue pas la comédie ?
Est-ce qu'il a provoqué,
n'est-ce pas ? Est-ce qu'il a provoqué le prêtre, etc. Vous savez, en fin de compte, les gens, ils voient toujours le prêtre, quelque part, comme étant le bon.
Mais aussi le problème dans ce milieu catholique que j'ai aimé à l'époque, mais c'est souvent le mot pardon qui revient. Parce que quand on est croyant et tout ça, ben on se dit, oui, ben Dieu a vécu plus que ça, il faut pardonner. Mais ça, c'est un peu facile.
Encore une fois, le prêtre, c'était dans la mentalité de l'Église, celui qui était au-dessus de.
Voilà. Au-dessus de quoi ?
Au-dessus de tout.
Et donc au-dessus de tout soupçon.
Ben oui, voilà.
Comment est-ce que vous expliquez que cet homme n'ait pas été révoqué de l'Église? Comment est-ce que vous l'expliquez?
Peut-être que
vous n'avez pas d'explication.
Peut-être un manque de courage, quelque part.
De qui?
De l'Église, peut-être, je ne sais pas.
Mais est-ce que cela voudrait aussi dire que, malgré les positions du pape François, on couvre toujours les agissements de prêtres pédophiles?
Ben, j'espère que non. Mm-hmm. Je dis j'espère.
Mais vous n'en êtes pas sûr.
L'homme est l'homme.
Durant toute cette procédure, notamment lors du jugement rendu par le tribunal ecclésiastique, l'Église a par tous les moyens tenté d'imposer sa chape de plomb sur l'affaire. Maître Cotten, son avocat, peut témoigner des représailles dont Joël a fait l'objet.
La preuve de ce qu'on veut déjà maintenir, une certaine omerta, c'est que cette plainte est précise. Ce sont quand même des faits graves. Au niveau pénal, ce sont des infractions les plus graves qui sont qualifiées de crimes, c'est-à-dire de viol sur un mineur ayant moins de 15 ans. Et tout de suite, on interroge très peu son abuseur. Hein. On ne lui demande pas beaucoup de détails. Hein.
C'est plutôt curieux, ça.
C'est très curieux. On ne lui demande pas de dire quand, où, comment. Ça s'est répété combien de fois. On dit, ben, vous avouez, c'est très bien. Mais tout de suite, on fait acter dans ce PV que j'ai sous les yeux et que je peux vous relire pour ne pas trahir la vérité. Et on dit ceci, l'affaire ne doit pas être étalée sur la voie publique. C'est écrit, contresigné par l'abuseur et Joël.
Vous avez été témoin des méthodes employées par l'Église pour empêcher Joël de parler. Qu'en avez-vous pensé de cette attitude?
Mais Joël dérange, ça c'est clair. On veut le faire taire ou on veut le faire passer pour fou. C'est-à-dire que régulièrement, il fait l'objet d'attaques. Il y a eu récemment, sur une chaîne de télé française, un correspondant de l'Église qui a dit ben, « Joël, à partir du moment où il a été abusé, deviendra abuseur lui-même ». Donc, on essaie de renverser les rôles et d'en faire, lui, l'abuseur, alors qu'il est victime. Donc, on renverse. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça veut dire ce que ça veut dire. Mm-hmm. Taisez-vous.
Savoir que ce prêtre fait toujours partie du diocèse de Namur me rend perplexe. Sur le site internet du diocèse, d'un simple clic, on tombe sur son adresse. Il est toujours prêtre, mais n'exerce plus la fonction officielle. Il est devenu assistant social. Une sanction pour lui. Sans doute la conséquence de la pugnacité de Joël. En 2000, il a décidé de saisir la justice pénale pour réclamer réparation. En vain, la stratégie de l'Église a été payante, les faits sont prescrits. Maître Cotten et Joël n'ont pourtant pas renoncé et en 2011, au civil, le prêtre est condamné à des dommages et intérêts.
Quel a été le jugement rendu au civil concernant votre agresseur?
Le prêtre a dû me payer 30 000 euros plus les intérêts depuis ma majorité, depuis mes 18 ans. Oui. Donc il y avait plus d'intérêts que la condamnation.
Donc ça s'est élevé au final à
près de 70 000 euros.
Donc il a été condamné à 70 000 euros.
Voilà, c'était vraiment une joie pour moi puisque c'était la première fois où la justice disait voilà, il est coupable et lui est victime. Voilà. Donc, mais il a fallu attendre 10 ans pour que je reconnaisse ça. Le statut de victime officielle. Parce qu'avant, on disait, ah oui, ben, il y a toujours la présomption d'innocence, c'est peut-être pas vrai ce qu'il dit, le prêtre est innocent tant qu'il n'est pas coupable. Ben, il a fallu 10 ans.
Vous vous reconstruisez donc depuis?
Ben, j'ai pas le choix de toute façon, mais c'est grâce à mon chien que je vis. Sinon, moi, je n'ai pas d'autre but dans la vie. Jamais je vais me marier, comme je dis, parce qu'on a peur de reproduire ces actes-là. Et donc, ou peur que sa femme soupçonne le mari de les faire. Mmh. Et donc, moi, vivre avec ces soupçons-là, je n'ai pas besoin. Alors, je préfère vivre seul et je suis tranquille. Mais pourquoi moi, je n'ai pas le droit de me marier et d'avoir des enfants à cause de ces abus-là?
Le courage et l'obstination de Joël ont encouragé d'autres victimes du curé pédophile à briser eux aussi la loi du silence. D'autres personnes ont déclaré avoir été abusées sexuellement par le même prêtre. Résultat en 2012, une condamnation à 18 mois de prison avec sursis. J'accompagne Joël devant l'église de son enfance, celle où à l'âge de 10 ans, il se réfugiait parfois la nuit. Cette église incarne à la fois le réconfort qu'il a pu y trouver à l'époque, mais aussi elle lui rappelle son enfance brisée et la trahison de ceux en qui il avait confiance.
Votre vocation aujourd'hui est morte ?
Ça c'est clair depuis longtemps. Mais ça c'est pas ça le problème, hein. Moi je ne regrette pas trop. Mais ce que je regrette, c'est qu'on ne m'ait pas été franc avec moi, correct, honnête. Et c'est ça que je reproche à ce monde-là, ce monde religieux.
Mais pour vous, cette démarche de porter plainte contre cet évêque, est-ce que c'est la seule façon de briser cette omerta ? C'est vraiment le sens de votre démarche ?
C'est le sens de ma démarche. Et puis aussi, je fais ça pour que d'autres victimes parlent. Mmh. Et voilà.
Désormais, Joël est engagé dans un combat citoyen, le combat de sa vie. Son ambition est de lutter contre cette forme d'omerta qui règne encore dans l'Église et qui enferme les victimes dans un non-dit destructeur. Je sais que sa détermination est totale et qu'il ne lâchera rien. Face à un tel homme, l'Église ne pourra pas infiniment se retrancher dans son silence. Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rask, Clémence Olivier et Kevin Ousty. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de nous suivre sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir du lundi au jeudi à l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. Alors je vous dis à très bientôt.